À l'écoute de RFI, minuit 30, ici à Paris, 22h30, temps universel.
Afrique Soir.
Place à l'actualité africaine sur Radio France Internationale. C'est avec vous, Zéphirin Kouadio. Bonsoir, mon cher Zéphirin.
Bonsoir, mon cher Slimano Matisse. Bonsoir à toutes et à tous. À la une de cette demi-heure d'infos africaines, l'impact des décisions de la nouvelle administration américaine sur l'Afrique. Droits de douane, suppression des aides internationales. Le continent n'est pas épargné par les mesures agressives de Donald Trump depuis son retour il y a 100 jours à la Maison-Blanche. Reportage et témoignages à suivre dès le début de ce journal. En République démocratique du Congo, l'étau se resserre autour de Joseph Kabila. Le procureur général des forces armées a déposé ce mercredi une requête au Sénat pour obtenir la levée de l'immunité de l'ancien président, accusé de trahison, crime de guerre, crime contre l'humanité et participation à un mouvement insurrectionnel. Le Mali s'achemine, lui, vers une pérennisation de la période de transition et un maintien des militaires au pouvoir sans élection. Les organisations consultées par le pouvoir ont recommandé la dissolution de tous les partis politiques et la nomination du général Assimi Goïta, président de la République pour 5 ans, renouvelable. Enfin, au Burkina Faso, la junte mobilise ses partisans après avoir dénoncé une tentative de coup d'État. Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées ce mercredi à Ouagadougou, la capitale, en soutien à la junte au pouvoir. Il s'agit d'une des plus importantes manifestations pro-junte depuis le coup d'État militaire de septembre 2022. Les 100 jours de Donald Trump à la Maison-Blanche n'ont pas été de tout repos pour l'Afrique. Nous retiendrons notamment le cas de Madagascar. Le président américain avait par exemple annoncé début avril des droits de douane de 47% pour les produits malgaches exportés vers Washington. Droits de douane les plus élevés du continent africain juste après le Lesotho, taxé à hauteur de 50%. Les taxes douanières ont finalement été suspendues pour 3 mois. Sur la grande île, on veut croire à une révision à la baisse de ces droits de douane, mais les professionnels se préparent à la secousse redoutée dans l'industrie textile et la filière vanille. À Antananarive, le point avec Pauline Le Trottier.
Nous gardons espoir d'une recherche d'intérêt mutuel, confie à RFI David Rallon-Boufring, ministre malgache de l'Industrie et du Commerce. Les autorités comptent notamment sur le secteur minier comme levier de pression potentielle, mais devant la politique imprévisible de Washington, les professionnels font preuve de réalisme. Même si le taux annoncé venait à être révisé à la baisse, la filière vanille est déjà fragilisée par une chute des revenus d'exportation de l'épice. Le risque est d'aggraver cette tendance et de voir les avantages de Madagascar grignoter sur le marché américain par des pays exportateurs taxés dans une moindre mesure, comme l'Ouganda ou l'Indonésie. Pour ce qui est du secteur textile, en cas de statu quo, 50 000 emplois à minima sont menacés. Au-delà des impacts sectoriels directs, on ne peut que redouter des effets en chaîne, s'alarme un économiste spécialisé dans les pays émergents. La baisse des exportations implique une dépréciation de l'ariary, la monnaie nationale, ce qui risque de relancer l'inflation et faire grimper le prix de l'essence et du riz. Une série de clignotants en rouge s'est allumé, résume cet économiste, dans l'attente du positionnement définitif de Washington. Pauline Troquier, Antananarive, RFI.
Les 100 jours, les 100 premiers jours de présence de Donald Trump au pouvoir, synonyme de galère également pour la diaspora africaine. C'est notamment le cas de Mamadou Dramé, installé à New York depuis 15 ans. Il préside l'Association des Sénégalais d'Amérique et depuis 100 jours, il enchaîne les allers-retours au tribunal pour soutenir des Sénégalais menacés d'expulsion.
Il y a un climat de peur réel qui s'est installé dans la communauté depuis l'arrivée de Donald Trump à la tête des États-Unis. Comme vous le savez, la multiplication des vagues d'arrestations, de détentions, parfois même arbitraires et d'expulsions d'Africains, c'est quelque chose qui est là, qui est réel. Moi, en tant que président de l'Association des Sénégalais d'Amérique, je pars très souvent au tribunal. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de Sénégalais qui sont quand même en détention et qui doivent être expulsés du pays. Et du coup, nous, on part là-bas en tant qu'organisation pour voir comment leurs droits civiques soient respectés aux États-Unis. Et on souhaiterait quand même que l'administration Trump respecte les procédures légales judiciaires de l'immigration. C'est pourquoi quand même il y a une bataille juridique qui est là entre les tribunaux et le pouvoir exécutif.
Voilà, témoignage recueilli par Noah Perret. Si la diaspora n'est pas épargnée par les mesures agressives du locataire de la Maison-Blanche sur le continent, ces mesures suscitent beaucoup d'inquiétudes. C'est notamment le cas dans les rues d'Abidjan, la capitale économique ivoirienne.
Eux, ce sont des républicains. Toute décision qu'il a prise, il l'a fait pour pouvoir amener son pays à engranger plus de bénéfices. Donc, je pense que ces décisions sont quand même salutaires.
Je n'ai aimé aucune de ces décisions qu'il a prises. La suppression de l'aide internationale, cela impacte de nombreux projets en Afrique, notamment l'accès à l'eau potable. Et aussi dans le domaine de la santé, parce que l'OMS s'appuie généralement, surtout beaucoup, sur ce don-là pour pouvoir permettre à tout le monde d'avoir droit à la santé et aux soins médicaux.
Son arrivée au pouvoir aux États-Unis, de façon générale, est défavorable même à l'économie mondiale. En ce qui concerne la restriction des entrées aux États-Unis, l'image qu'il donne des étrangers aux Américains, qui sont là pour réduire les opportunités des Américains, tout ça, je ne suis pas pour.
Normalement, les universités américaines recevaient des subventions, mais qui l'a retiré à cause des différentes manifestations antisémites que les étudiants avaient au sein des universités. Et je trouve que c'est assez injuste parce que c'est un peu comme s'il retirait la liberté d'expression de ces jeunes-là.
Voilà, réaction diversement. Les 100 jours de présence à la Maison Blanche de Donald Trump, diversement apprécié dans les rues d'Abidjan, au micro d'Abdoulaziz Diallo, notre correspondant sur place.
Bukavu, 98 FM.
En République démocratique du Congo, une requête a été déposée ce mercredi au Sénat pour obtenir une levée de l'immunité de Joseph Kabila. L'ancien président est accusé d'être cofondateur de l'Alliance Fleuve Congo, la branche politique de la rébellion du M23. C'est le ministre de la Justice qui l'a annoncé suite à une requête du procureur général du Sénat. Officiellement, Joseph Kabila est donc accusé de trahison, crime de guerre, crime contre l'humanité et participation à un mouvement insurrectionnel. De lourdes charges passibles de la peine capitale. Écoutez ce qu'en dit le garde des Sceaux, Constant Mutamba, au micro RFI de Pascal Moulekoua.
La justice a rassemblé un maximum de preuves tangibles et irréfragables, qui était l'implication claire du sénateur à vie Joseph Kabila Kabange dans les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, en ce moment dans la partie est du pays. Nous invitons l'ancien chef d'État à venir affronter la justice congolaise. La justice a recueilli, a répertorié en même temps tous les biens mobiliers et immobiliers du sénateur à vie Joseph Kabila, se trouvant aussi bien en République démocratique du Congo qu'en dehors du territoire national. Nous attendons donc du Sénat l'autorisation expresse, mais en même temps la levée de ses immunités pour que des saisies conséquentes à titre préventif et conservatoire soient opérées pour permettre à la justice d'instruire sérieusement le dossier, le faire fixer devant la haute cour militaire afin d'éclairer l'opinion sur la responsabilité pénale de M. Joseph Kabila.
Voilà le garde des Sceaux de la République démocratique du Congo au micro RFI de Pascal Moulekoua. Le Gabon, lui, réintègre les instances de l'Union africaine. Réuni ce matin à Addis Abeba, le Conseil Paix et Sécurité de l'Organisation panafricaine a décidé de lever la suspension de Libreville 20 mois après le coup d'état militaire. Le CPS estime que le processus politique gabonais est, je cite, satisfaisant. En tout cas, cette décision intervient à 3 jours de la prestation de serment de Brice Clotaire Oligui Nguema, élu à la présidence du pays le 12 avril dernier. Cet après-midi, le président a donc déclaré que ce retour était, je cite, un symbole de la reconnaissance de notre engagement collectif à reconstruire notre pays dans la paix, l'ordre et la dignité. Un député kényan abattu par balle ce mercredi en pleine rue à Nairobi, la capitale. C'est ce que rapporte le président de l'Assemblée nationale, confirmant des informations diffusées par les médias. Des témoins ont indiqué que la victime avait été attaquée par 2 assaillants circulant à moto, selon la chaîne de télévision Citizen TV. Le député tué était membre du mouvement démocratique Orange de Raila Odinga, qui a contesté les résultats de l'élection de 2022 et qu'il a perdu face au président William Ruto. Le candidat malheureux a conclu ces derniers mois une alliance avec le président Ruto. Au Mali, à la suite des consultations orchestrées par les autorités de transition, il a été recommandé ce mardi de dissoudre les partis politiques et d'élever le général Assimi Goïta au rang de président de la République pour un mandat de 5 ans renouvelable. Ce soir, en Conseil des ministres, un projet de loi a été adopté abrogeant la charte des partis politiques en vue de leur dissolution et les partisans de la démocratie redoutent un retour à la dictature militaire comme celle qu'a connue le pays jusqu'en 1990. Écoutez ce qu'en dit Abdoulaye Traoré, président du parti RJS et vice-président de la coalition Djigiyakura, Espérance Nouvelle. Il vit aujourd'hui hors du Mali.
On s'y attendait parce que on voyait venir cette manœuvre de la junte qui consiste à instrumentaliser l'administration publique, les chefs coutumiers et traditionnels pour se maintenir au pouvoir. D'ailleurs, ces concertations, les partis politiques n'ont pas pris part parce qu'on savait déjà de quoi il s'agit. Donc vraiment, c'est un recul démocratique qui sape la République. La démocratie malienne a été écrite par le sang vraiment de nos concitoyens. C'est des gens qui sont tombés en 1991 pour que notre pays soit doté vraiment de la démocratie, du multipartisme. Donc, 30 ans après, ce serait inconcevable qu'on mette ces acquis républicains et démocratiques de côté. Tous les démocrates, on va se battre pour barrer la route vraiment à la gente de s'installer illégalement, foulant au pied notre constitution, notre loi fondamentale.
Voilà, propos recueillis par David Baché. Au Burkina Faso, des milliers de partisans du capitaine Ibrahim Traoré, chef de la junte au pouvoir, se sont réunis ce mercredi, place de la Nation à Ouagadougou, rassemblement à l'appel de la Coordination nationale des associations de veille citoyenne, pour exprimer leur soutien au régime du capitaine Traoré. Un régime qui a récemment dénoncé une nouvelle tentative de coup d'État. Le récit de Frédéric Gara.
The patriotes, vous les patriotes, today we have the real reincarnation of Thomas Sankara, the captain Ibrahim Traoré.
Il y avait comme de la ferveur en haut de la tribune Place de la Nation à Ouagadougou. Une ferveur et des discours, notamment celui du Premier ministre, relayés sur les écrans de la RTB, la télévision nationale. Des milliers de Ouagalais manifestaient ce matin pour soutenir le capitaine Traoré, le chef de la junte récemment indexé par le général Michael Langley. Le 15 avril, le chef du commandement militaire américain pour l'Afrique, AFRICOM, émettait en effet des doutes sur la bonne gestion des ressources minières qui profiteraient plus, selon lui, à la junte militaire qu'au pays. Des propos inadmissibles, selon Mohamed, l'un des manifestants.
Le Burkina, c'est pour nous. L'or du Burkina, c'est pour nous. Si nous voulons, nous allons partager de l'or à tous les Burkinabés. Ça, ça n'engage que nous. C'est parce que, tout simplement, les Occidentaux n'arrivent plus à toucher à nos ressources qu'ils sont en train de mentir. Et nous, nous sommes là comme les gardiens de la République.
À Ouagadougou, à Bobo Dioulasso ou encore à Boromo, des regroupements plus ou moins spontanés ont eu lieu pour marquer leur soutien à la junte. Les influenceurs pro-Traoré demandant instamment à tous d'afficher le portrait ou bien un message de soutien au président de la transition sur leur profil de messagerie.
La patrie ou la mort ? Merci bien, camarade.
Le récit signé Frédéric Gara. Et puis au Ghana, l'ancien chef de l'organisme chargé de la sécurité nationale poursuivi pour détournement de fonds, annonce faite ce mercredi par le procureur général du Ghana. Cet ancien haut responsable sécuritaire est accusé dans le cadre d'un contrat de 7 millions de dollars signé en janvier 2020 avec une société israélienne. Il avait été arrêté en mars dernier avec son épouse, elle aussi poursuivie.
RFI à Thiès. 100.2 FM.
Au Sénégal, les 10 000 étudiants de l'université Alioune Diop de Bambé, dans le centre du pays, tirent la sonnette d'alarme. Depuis plusieurs semaines, ils dénoncent une dégradation continue de leurs conditions de vie et d'études. Dans un nouveau communiqué, ils appellent le gouvernement à honorer toutes ses promesses. Mohamed Malenilo est le président de l'amicale des étudiants de Bambé.
Cette année, nous avons accueilli plus de 3500 nouveaux bacheliers. Et depuis l'arrivée en mars de ces derniers, nous avons constaté d'énormes difficultés, notamment sur le volet de l'hébergement et de la restauration. Sur l'hébergement, déjà, il faut noter qu'il n'y a plus d'espace dans les campus. En marge de cela aussi, il y a une pénurie d'eau qui s'installe et le problème aussi de connectivité au niveau des campus. Et je pense que ce qui pouvait pallier à tous ces problèmes-là, c'est la livraison du restaurant à capacité d'accueil de 1000 places et du service médical. Malheureusement, le constat est fâcheux, parce qu'en dépit de toutes les promesses formulées par le ministre de l'Enseignement supérieur, aucune avancée sérieuse n'a été notée sur ces travaux de construction.
Le président de l'amicale des étudiants de Bambé au micro de Léalisa Vesteroff. Je vous propose maintenant une immersion dans la forêt du bassin du Congo. Immersion en compagnie du photographe Gwen du Bourtoumieux et de l'écrivain Guillaume Jean. De la mi-août à fin octobre 2023, ils ont exploré la faune, la flore et rencontré les habitants des forêts congolaises. Un périple qui a donné naissance à l'exposition « Forêt du Congo, dernier poumon vert de la planète » à l'Institut français de Kinshasa, avec un objectif pour ses explorateurs, alerter sur l'urgence de protéger la forêt du bassin du Congo. Reportage Aurélie Bazara Kibangula.
Les 31 photos de Gwen de Bourtoumieux nous plongent au cœur de la forêt congolaise. Un travail documentaire réalisé en 10 semaines de Mwanda jusqu'à Kisangani.
La forêt en RDC particulièrement est relativement inaccessible parce qu'il n'y a pas de route. Donc la plupart des voyages se font sur le fleuve et sur les affluents du fleuve Congo.
Un périple en baleinière, pirogues et motos qui nous fait voir le parc marin des mangroves, explorer les tourbières ou encore rencontrer les chasseurs traditionnels. L'objectif du photographe est de raconter la vie des habitants en forêt, mais aussi de lancer un cri d'alerte.
La forêt du bassin du Congo perd environ un département français chaque année. Et les causes de cette déforestation sont radicalement différentes de ce qui se passe en Amazonie. En Amazonie, c'est essentiellement la déforestation pour de l'agro-industrie, alors que dans le bassin du Congo, ce sont la fabrication de charbon de bois et les modes d'agriculture traditionnelle.
Au total, Gwen du Bourtoumieux aura parcouru plus de 4000 km et un moment l'a particulièrement marqué.
Un petit moment sensible qui m'a tiré une larme, c'est la rencontre avec un bébé chimpanzé qui avait été récupéré par l'ONG la Wildlife Conservation Society. Les parents du jeune chimpanzé avaient été abattus, donc il l'avait récupéré. Effectivement, c'était un moment assez émouvant.
Selon les scientifiques, la forêt du bassin du Congo aura perdu près de 35% de sa superficie d'ici 2050. Aurélie Bazara Kibangula, Kinshasa, RFI.
Rappelons aussi que la forêt du bassin du Congo est aujourd'hui considérée comme le premier puits de carbone au monde. Elle absorbe en effet près de 600 millions de tonnes de CO2 par an, loin devant l'Amazonie qui en absorbe seulement, si je puis dire, 100 millions de tonnes. Une forêt aujourd'hui menacée par l'homme, c'est en substance ce que nous explique Alain Huard, documentariste passionné des forêts du Congo et spécialiste des solutions de préservation des forêts en République démocratique du Congo.
C'est le premier puits de carbone terrestre. En plus de ça, il y a ce qu'on appelle la zone tourbière. C'est une zone qui est à cheval entre le Congo Brazza et le Congo Kinshasa. Et dans la zone tourbière, nous avons des couches de tourbe qui sont de l'ordre de 2 à 3, 4 mètres de profondeur et qui stockent des très grandes quantités de carbone. Donc c'est pour vous dire que c'est ça, c'est le poumon vert, c'est que une forêt primaire intacte a des capacités extraordinaires de recycler le CO2, de régénérer l'atmosphère. Mais ici, au Congo, nous avons peut-être 3, 4, 5 millions de ménages agricoles qui, chaque année, vont couper un morceau de forêt pour le défricher et cultiver. C'est de loin la première cause de déforestation. Après ça, effectivement, on a l'exploitation forestière, l'exploitation minière et également le makala, le charbon de bois, puisque le Congo, en général, est dépendant à 90% du charbon de bois pour ses consommations énergétiques. Donc c'est ça l'ensemble des causes de déforestation.
Mon propos accueilli par Aurélie Bazara Kibangula. Il est minuit 48 à Paris, l'heure d'ouvrir la page sport d'Afrique Soir avec, pour commencer, du football. Pas de vainqueur entre le FC Barcelone et l'Inter Milan, mais que de spectacles dans cette demi-finale allée de la Ligue des Champions. Score final 3 buts partout au stade olympique Luis Companys. Le Barça a été mené au score par 2 fois, mais a su revenir pour garder toutes ses chances d'atteindre la finale. Et comme souvent, Sofiane Amazian, le jeune joyau espagnol Lamine Yamal a éclaboussé la rencontre de son talent.
Il y a des joueurs comme ça qui ne laissent personne insensible. Lamine Yamal fait évidemment partie de cette catégorie. L'ailier a d'ailleurs battu 2 nouveaux records ce mercredi soir face à l'Inter. Plus jeune joueur à disputer 100 matchs avec le Barça et a marqué en demi-finale de la Ligue des Champions à 17 ans et 292 jours devant un certain Kylian Mbappé. La jeune pépite a d'abord du mal à démarrer comme son équipe menée rapidement 2-0 avec des buts magnifiques signés Marcus Thuram et Denzel Dumfries. Scénario catastrophe à Barcelone. Lamine Yamal, cheveux teint en blond, demande au sien de se calmer avant de débuter son récital. Un slalom dans la surface pour le 2-1, puis cette barre transversale touchée quelques instants plus tard, avant l'égalisation méritée de Ferran Torres sur une offrande du Brésilien Rafinha, 24e passe décisive de la saison. Supérieur techniquement, le Barça se fait surprendre en deuxième période sur corner pour le doublé de Dumfries, mais revient au score, encore grâce à la frappe sèche de Rafinha contrée par le gardien de l'Inter, Yann Sommer. Yamal a même eu une balle de match, mais son tir brossé a une nouvelle fois heurté la barre. Que d'émotion pour un match aller. Tout reste à jouer à Milan mardi prochain.
Sofiane Amazian. Et du cyclisme pour refermer cette page sport avec le Tour du Bénin, évidemment. 3e étape ce mercredi, près de Bouicon, dans le centre-sud du pays. Un contre-la-montre par équipe sur 25 km remporté par l'équipe marocaine d'Agadir devant 7-11 ou 7-11 des Philippines et la formation néerlandaise. 4e à 30 secondes. L'Afrique du Sud permet tout de même à Reinhard Jans van Rensburg de préserver pour 6 secondes son maillot jaune. Une course dont le directeur envoyé par l'UCI, l'Union Cycliste Internationale, est l'Italien Sandro Coccioni et ses assistants commissaires, des locaux comme le tout jeune Salami, avait ses tiens 21 ans, étudiant et une passion, le vélo. Reportage, Olivier Point.
Arrête-toi. Si tu continues, on va t'arracher la moto.
A rappelé vertement à l'ordre la jeune conductrice d'une moto qui n'avait rien à faire là. Salami n'est pas bien vieux, mais il connaît son métier. Et le règlement de la course sur le bout des doigts dans sa voiture avec son chauffeur, ça ne rigole pas. Étudiant en sport à Porto Novo, entraîneur en chef des cyclistes béninoises toute l'année, le voilà donc commissaire en patriote.
Si j'ai la compétence qu'il faut et que le pays a besoin de moi, il faut que je réponde. C'est la passion qui anime après tout. Mais il faut dire qu'il y a un qui prédomine sur l'autre. J'aime bien être dans une équipe, se sentir en famille. Donc, s'il faut peser le pour et le contre, j'aime bien être entraîneur.
Bonjour, coach. Bonjour, ça va?
Ça va bien.
Toi, aujourd'hui, n'est pas coach.
Allez, aujourd'hui, moi, c'est commissaire.
Non, c'est commissaire. Hein.
Envoyez votre véhicule là-bas, coach. J'arrive.
Consciencieux aussi quand il s'agit d'indiquer la marche à suivre à l'entraîneur en chef du cyclisme au Bénin, Adrien Nyonchouti. Salami, qui signifie paix en Yoruba, est aussi frêle que déterminé et bien occupé.
Je suis très occupé, mais j'aime bien parce que dans la vie, on ne sait jamais là où la vie nous mène. Donc, je suis très heureux d'être occupé ainsi. Mon objectif, c'est de travailler avec une équipe professionnelle, l'inscrire au niveau de l'UCI.
Et après le tour, direction les États-Unis cet été pour préparer les mondiaux de Kigali avec ses coureuses. Olivier Pron, Boïcon, RFI.
Au revoir, on se voit de mon départ.
Bon, voilà, Salami qui aura donc encore fort à faire ce jeudi pour la 4e étape de Boïcon à Etiémé à la frontière togolaise. 111 km au programme. Il est 22h52 en temps universel. Le dossier Afrique Économie. Économie notamment au point mort dans le Nord Kivu et le Sud Kivu, pillages, spoliations d'entreprises, banques à l'arrêt. La guerre a paralysé les activités économiques et les entrepreneurs espèrent beaucoup des pourparlers en cours à Washington. Le Rwanda et la République démocratique du Congo se sont effectivement donnés jusqu'à ce vendredi 2 mai pour parvenir à un projet d'accord de paix. Un espoir pour le patronat du Nord Kivu et du Sud Kivu, Alexis Bédu.
Près de 90 entreprises qui l'accompagnent ont mis la clé sous la porte à Bukavu. Jean-Paul Lokoumou, consultant en entrepreneuriat, constate l'abattement et le sentiment d'abandon des patrons dans cette région coupée du monde.
Lorsque il n'y a plus de vols, lorsque le banque ne fonctionne plus, on ne peut pas parler de climat des affaires pour le moment.
Jean-Paul Lokoumou se fait le porte-voix des patrons des Kivu. Ils espèrent une paix rapide. En attendant, ils demandent de l'aide.
Je fais appel aux ONG, aux structures de financement de venir en rescousse. Mais même si les banques sont fermées, il y a la possibilité de travailler sur la résilience, de trouver une solution pour ces entrepreneurs. En tout cas, ils sont vraiment dans les besoins.
L'amélioration du climat des affaires, c'est un des credos de l'exécutif congolais ces derniers mois. Lors d'un forum à Casablanca la semaine dernière, le ministre de l'économie nationale, Daniel Moukoko Samba, a invité les entrepreneurs étrangers à investir en RDC. Mi-avril, Thierry Katembwe, conseiller du président de la République Félix Tshisekedi, était lui aussi à Paris pour convaincre les entreprises françaises d'investir dans le pays.
La démarche est assez claire, qu'on sait que le pays va finir par être pacifié. On sait que tout est une question d'économie, tout est une question d'opportunité. Aujourd'hui, on dit à tous ces investisseurs, venez directement en RDC. On est en train de mettre en place une plateforme énorme pour que les différentes multinationales s'y retrouvent. On est très heureux aujourd'hui d'avoir des grosses boîtes françaises, des plus grosses boîtes américaines, qui sont déjà engagés et donc on en veut encore plus.
Le Nord Kivu intéresse toujours le groupe hôtelier français Accor qui a un projet d'hôtel Ibis Style à Goma. Son vice-président en charge du développement en Afrique, Reda Fassé.
Notre partenaire qui est local, qui a une parfaite lecture des dynamiques de développement que va connaître sa ville dans les années à venir, croit fortement à son potentiel et il faut se projeter. Il est clair que à l'instant T, c'est un peu compliqué, mais on est optimiste. La ville va connaître un dénouement heureux et c'est ce qu'on lui souhaite. Et on espère justement pouvoir développer très prochainement un hôtel, voire plusieurs, à Goma, qui reste quand même une ville d'une taille assez importante.
La RDC cherche à diversifier son économie, mais c'est bien autour de ces précieux minerais critiques qu'un accord avec les États-Unis est en train d'être concocté.
Dossier signé Alexis Bédu. Place à la musique dans Afrique Soir avec la sortie d'une compilation Finding de Frank, première sortie du label Rasta Pasta Records consacrée à De Frank Kakra, un artiste togolais dont on ne sait presque rien. Mais Pierre Vallée nous invite à le découvrir.
On en sait tellement peu sur lui qu'on ne connaît même pas son vrai nom. De Frank Kakra est un des pseudos qu'il a utilisé pendant sa carrière et le peu de renseignements que l'on trouve sur lui, ce sont les quelques lignes que l'on découvre au dos des pochettes de ses disques. On y apprend qu'il est né au Togo et qu'il est issu du peuple Ewe, un peuple qui se répartit entre le sud du Togo et l'est du Ghana. La carrière de De Frank Kakra démarre au début des années 70 avec le groupe de Highlife Vis-à-Vis, où il officie comme choriste et percussionniste. Il formera par la suite ses propres groupes comme The Professionals, The Digit Haze et s'associera avec le guitariste ghanéen Sammy Copper. Ses diverses expériences l'emmèneront un peu partout en Afrique de l'Ouest, d'Abidjan à Lagos, et ce sont précisément les morceaux de cette période qui sont compilés sur le disque dont nous parlons aujourd'hui, Finding de Frank. La musique de De Frank Kakra est plutôt joyeuse. Sur une base de highlife, elle s'inspire des styles à la mode à cette époque pour aboutir à un afro-funk ou afro-disco toujours entraînant, venu tout droit d'une époque insouciante où les pistes de danse vibraient d'une belle énergie. Petite particularité, il s'essaie au reggae en 1978 sur un album appelé Jamaican Sound. Où est De Frank Kakra aujourd'hui, on ne sait pas. Certains l'auraient vu à Hambourg, d'autres à Hawaï. En sortant cette compilation, le label Rasta Pasta Records espère bien toucher sa famille, des musiciens ou des personnes avec qui il aurait travaillé, et ainsi faire émerger quelques histoires, quelques vérités, pour tenter de nous éclairer au sujet de ce mystérieux musicien.
Signé de Frank Kakra, artiste togolais, qui mérite donc d'être connu et surtout entendu. Ainsi s'achève cette édition d'Afrique Soir réalisée par Raphaël Lazizi, rédactrice en chef Sabine Mélé, assistée de Simon Huile-Baudin. Dans une minute, retour de l'info sur la Radio Mondiale.
Préparez-vous à découvrir le futur du stand-up africain. Avec le podcast La Relève du Rire, plongez au cœur de Mon Premier Montreux, le grand casting de l'humour lancé dans 10 pays d'Afrique francophone. Chaque semaine, découvrez un nouvel épisode avec les meilleurs sketchs et l'énergie débordante des humoristes de demain. Alors, d'où viendra la prochaine pépite du stand-up africain ? La Relève du Rire, c'est votre dose hebdomadaire de bonne humeur. Disponible sur RFI.fr, l'application RFI Pure Radio et toutes les plateformes d'écoute.